Consuelo, livre 3, chapitre 94. Après l'insinuation qu'elle avait lancée quelques minutes auparavant sur les relations de Consuelo avec le gros chanoine, l'aspect de ce dernier produisit un peu sur Corilla l'effet de la tête de Méduse. Mais elle se rassura en pensant qu'elle avait parlé vénitien, et elle le salua en allemand, avec ce mélange d'embarras et d'effronterie qui caractérise le regard et la physionomie particulière de la femme de mauvaise vie. Le chanoine, ordinairement si poli et si gracieux dans son hospitalité, ne se leva pourtant point et ne lui rendit même pas son salut. Corilla, qui s'était bien informée de lui à Vienne, avait tout y dire à tout le monde qu'il était excessivement bien élevé, grand amateur de musique et incapable de sermonner pédantesquement une femme, une cantatrice surtout. Elle s'était promis de l'aller voir et de le fasciner pour l'empêcher de parler contre elle. Mais si elle avait dans ces sortes d'affaires le genre d'esprit qui manquait à Consuelo, elle avait aussi cette nonchalance et ce décousu d'habitude qui tiennent au désordre, à la paresse, et quoique ceci ne paraisse pas venir à propos, à la malpropreté. Toutes ces pauvretés s'enchaînent dans la vie des organisations grossières. La mollesse du corps et de l'âme rendent impuissants les effets de l'intrigue, et Corilla, qui avait l'instinct de toutes les perfidies, avait rarement l'énergie de les mener à bien. Elle avait donc remis d'un jour à l'autre sa visite au chanoine, et quand elle le trouva si froid et si sévère, elle commença à se déconcerter visiblement. Alors, cherchant par un trait d'audace à se remettre en scène, elle dit à Consuelo, qui tenait toujours Angèle dans ses bras, « Eh bien, toi, pourquoi ne me laisses-tu pas embrasser ma fille et la déposer aux pieds de monsieur le chanoine pour... » « Dame Corilla, » dit le chanoine du même ton sec et froidement railleur dont il disait autrefois « Dame Brigide, faites-moi le plaisir de laisser cet endroit tranquille. » Et s'exprimant en italien avec beaucoup d'élégance, quoique avec une lenteur un peu trop accentuée, il continua ainsi, sans ôter son bonnet de dessus ses oreilles. « Depuis un quart d'heure que je vous écoute, et bien que je ne sois pas très familiarisé avec votre patois, j'en ai assez entendu pour être autorisé à vous dire que vous êtes bien la plus effrontée coquine que j'ai rencontrée dans ma vie. Cependant, je crois que vous êtes plus stupide que méchante, et plus lâche que dangereuse. Vous ne comprenez rien aux belles choses, et ce serait temps perdu que d'essayer de vous les faire comprendre. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Cette jeune fille, cette vierge, cette sainte, comme vous l'avez nommée tout à l'heure en croyant railler, vous la souillez en lui parlant. Ne lui parlez donc plus. Quant à cet enfant qui est né de vous, vous le flétririez en le touchant. Ne le touchez donc pas. C'est un être sacré qu'un enfant. Consuelo l'a dit, et je l'ai compris. C'est par l'intercession, par la persuasion de cette même Consuelo, que j'ai osé me charger de votre fille, sans craindre que les instincts pervers qu'elle peut tenir de vous vinssent à m'en faire repentir un jour. Nous nous sommes dit que la bonté divine donne à toute créature le pouvoir de connaître et de pratiquer le bien, et nous nous sommes promis de lui enseigner le bien, et de le lui rendre aimable et facile. Avec vous, il en serait tout autrement. Veuillez donc, dès aujourd'hui, ne plus considérer cet enfant comme le vôtre. Vous l'avez abandonné, vous l'avez cédé, donné. Il ne vous appartient plus. Vous avez remis une somme d'argent pour nous payer son éducation. » Il fit un signe à la jardinière, qui, prévenue par lui depuis quelques instants, avait tiré de l'armoire un sac lié et cacheté, celui que Corilla avait envoyé au chanoine avec sa fille, et qui n'avait pas été ouvert. Il le prit et le jeta aux pieds de la Corilla, en ajoutant « Nous n'en avons que faire et nous n'en voulons pas. Maintenant, je vous prie de sortir de chez moi et de n'y jamais remettre les pieds, sous quelque prétexte que ce soit. À ces conditions, et à celle que vous ne vous permettrez jamais d'ouvrir la bouche sur les circonstances qui nous ont forcés d'être en rapport avec vous, nous vous promettons le silence le plus absolu sur tout ce qui vous concerne. Mais si vous agissez autrement, je vous avertis que j'ai plus de moyens que vous ne pensez de faire entendre la vérité à Sa Majesté impériale, et que vous pourriez bien voir changer vos couronnes de théâtre et les trépignements de vos admirateurs en un séjour de quelques années dans un couvent de filles repenties. » Ayant ainsi parlé, le chanoine se leva, fit signe à la nourrice de prendre l'enfant dans ses bras, et à Consuelo de se retirer, avec Joseph, au fond de l'appartement. Puis il montra du doigt la porte à Corilla, qui, terrifiée, pâle et tremblante, sortit convulsivement et comme égarée, sans savoir où elle allait et sans comprendre ce qui se passait autour d'elle. Le chanoine avait eu, durant cette sorte d'imprécation, une indignation d'honnête homme qui, peu à peu, l'avait rendu étrangement puissant. Consuelo et Joseph ne l'avaient jamais vu ainsi. L'habitude d'autorité qui ne s'efface jamais chez le prêtre, et aussi l'attitude du commandement royal qui passe un peu dans le sang et qui trahissait en cet instant le bâtard d'Auguste II, revêtait le chanoine, peut-être à son insu, d'une sorte de majesté irrésistible. La Corilla, à qui jamais aucun homme n'avait parlé ainsi dans le calme austère de la vérité, ressentit plus d'effroi et de terreur que jamais ses amants furieux ne lui en avaient inspiré dans les outrages de la vengeance et du mépris. Italienne et superstitieuse, elle eut véritablement peur de cet ecclésiastique et de son anathème, et s'enfuit éperdue à travers les jardins, tandis que le chanoine, épuisé de cet effort si contraire à ses habitudes de bienveillance et d'enjouement, retomba sur sa chaise, pâle, et presque en défaillance. Tout en s'empressant pour le secourir, Consuelo suivait involontairement de l'œil la démarche agitée et vacillante de la pauvre Corilla. Elle la vit trébucher au bout de l'allée et tomber sur l'herbe, soit qu'elle eût fait un faux pas dans son trouble, soit qu'elle n'eût plus la force de se soutenir. Emportée par son bon cœur et trouvant la leçon plus cruelle qu'elle n'eût eu la force de la donner, elle laissa le chanoine aux soins de Joseph et courut rejoindre sa rivale qui était en proie à une violente attaque de nerfs. Ne pouvant la calmer et n'osant la ramener au prieuré, elle l'empêcha de se rouler par terre et de se déchirer les mains sur le sable. Corilla fut comme folle pendant quelques instants. Mais quand elle eut reconnu la personne qui la secourait et qui s'efforçait de la consoler, elle se calma et devint d'une pâleur bleuâtre. Ses lèvres contractées gardèrent un morne silence, et ses yeux éteints, fixés sur la terre, ne se relevèrent pas. Elle se laissa pourtant reconduire jusqu'à sa voiture, qui l'attendait à la grille, et y monta, soutenue par sa rivale, sans lui dire un seul mot. « Vous êtes bien mal ?» lui dit Consuelo, effrayée de l'altération de ses traits. « Laissez-moi vous accompagner un bout de chemin, je reviendrai à pied. » La Corilla, pour toute réponse, la repoussa brusquement, puis la regarda un instant avec une expression impénétrable. Et tout à coup, éclatant en sanglots, elle cacha son visage dans une de ses mains, en faisant de l'autre signe à son cocher de partir et en baissant le store de la voiture entre elle et sa généreuse ennemie. Le lendemain, à l'heure de la dernière répétition de l'Antigono, Consuelo était à son poste et attendait la Corilla pour commencer. Cette dernière envoya son domestique dire qu'elle arriverait dans une demi-heure. Caffariello la donna à tous les diables, prétendit qu'il n'était point aux ordres d'une pareille péronnelle, qu'il ne l'attendrait pas, et fit mine de s'en aller. Madame Tesi, pâle et souffrante, avait voulu assister à la répétition pour se divertir aux dépens de la Corilla. Elle s'était fait apporter un sofa de théâtre, et allongée dessus, derrière cette première coulisse, peinte en rideaux repliés, qu'en style de coulisse précisément on appelle manteau d'arlequin, elle calmait son amie et s'obstinait à attendre Corilla, pensant que c'était pour éviter son contrôle qu'elle hésitait à paraître. Enfin, la Corilla arriva, plus pâle et plus languissante que Madame Thésy elle-même, qui reprenait ses couleurs et ses forces en la voyant ainsi. Au lieu de se débarrasser de son mantelet et de sa coiffe, avec les grands mouvements et l'air dégagé qu'elle se donnait de coutume, elle se laissa tomber sur un trône de bois doré oublié au fond de la scène, et parla ainsi à Holzbauer d'une voix éteinte. « Monsieur le directeur, je vous déclare que je suis horriblement malade, que je n'ai pas de voix, que j'ai passé une nuit affreuse. »« Avec qui ?» demanda languissamment la Thésy à Caffariello. « Et que, pour toutes ces raisons, » continua la Corilla, « il m'est impossible de répéter aujourd'hui et de chanter demain, à moins que je ne reprenne le rôle d'Ismène et que vous ne donniez celui de Bérénice à une autre. » « Y songez-vous, madame ? » s'écria Holzbauer, frappé comme d'un coup de foudre. « Est-ce à la veille de la représentation, et lorsque la cour en a fixé l'heure, que vous pouvez alléguer une défaite ? C'est impossible, je ne saurais en aucune façon y consentir. » « Il faudra bien que vous y consentiez, » répliqua-t-elle en reprenant sa voix naturelle, qui n'était pas douce. « Je suis engagée pour les seconds rôles, et rien dans mon traité ne me force à faire les premiers. » C'est un acte d'obligeance qui m'a porté à les accepter au défaut de la signora Thésy, et pour ne pas interrompre les plaisirs de la cour. Or, je suis trop malade pour tenir ma promesse, et vous ne me ferez point chanter malgré moi. Ma chère amie, on te fera chanter par ordre, reprit Caffariello, et tu chanteras mal, nous y étions préparés. C'est un petit malheur à ajouter à tous ceux que tu as voulu affronter dans ta vie. « Mais il est trop tard pour t'en repentir. Il fallait faire tes réflexions un peu plus tôt. Tu as trop présumé de tes moyens. Tu feras fiasco. Peu nous importe à nous autres. Je chanterai de manière à ce qu'on oublie que le rôle de Bérénice existe. La Porporina aussi, dans son petit rôle d'Ismène, dédommagera le public, et tout le monde sera content, excepté toi. Ce sera une leçon dont tu profiteras, ou dont tu ne profiteras pas. » Une autre fois. Vous vous trompez beaucoup sur mes motifs de refus, répondit la Corilla avec assurance. Si je n'étais malade, je chanterais peut-être le rôle aussi bien qu'une autre. Mais comme je ne peux pas le chanter, il y a quelqu'un ici qui le chantera mieux qu'on ne l'a encore chanté à Vienne, et cela pas plus tard que demain. Ainsi la représentation ne sera pas retardée, et je reprendrai avec plaisir mon rôle d'Ismène qui ne me fatigue point. « Vous comptez donc, » dit Holzbauer surpris, « que Madame Thésy se trouvera assez rétablie demain pour chanter le sien. »« Je sais fort bien que Madame Thésy ne pourra chanter de longtemps, » dit la Corilla à haute voix, de manière à ce que, du trône où elle se prélassait, elle pût être entendue de la Thésy, étalée sur son sofa à 10 pas d'elle. « Voyez comme elle est changée, et sa figure est effrayante !» Mais je vous ai dit que vous aviez une Bérénice parfaite, incomparable, supérieure à nous toutes. Et la voici, ajouta-t-elle en se levant et en prenant Consuelo par la main pour l'attirer au milieu du groupe, inquiet et agité, qui s'était formé autour d'elle. « Moi ? » s'écria Consuelo, qui croyait faire un rêve. « Toi ! » s'écria Corilla en la poussant sur le trône avec un mouvement convulsif. « Te voilà reine, Porporina, te voilà au premier rang. C'est moi qui t'y place, je te devais cela. Ne l'oublie pas. » Dans sa détresse, Holzbauer, à la veille de manquer à son devoir et d'être forcé peut-être de donner sa démission, ne put repousser ce secours inattendu. Il avait bien vu, d'après la manière dont Consuelo avait fait l'Ismène, qu'elle pouvait faire la Bérénice d'une manière supérieure. Malgré l'éloignement qu'il avait pour elle et pour le Porpora, il ne lui fut permis d'avoir en cet instant qu'une seule crainte, c'est qu'elle ne voulut point accepter le rôle. Elle s'en défendit, en effet, très sérieusement, et, pressant les mains de la Corilla avec cordialité, elle la supplia, à voix basse, de ne pas lui faire un sacrifice qui l'enorgueillissait si peu. Tandis que, dans les idées de sa rivale, c'était la plus terrible des expiations et la soumission la plus épouvantable qu'elle pût s'imposer. Corilla demeura inébranlable dans cette résolution. Madame Daisy, effrayée de cette concurrence sérieuse qui la menaçait, eut bien envie d'essayer sa voix et de reprendre son rôle. Dut-elle expirer après, car elle était sérieusement indisposée. Mais elle ne l'osa pas. Il n'était pas permis au théâtre de la cour d'avoir les caprices auxquels le souverain débonnaire de nos jours, le bon public, sait se ranger si patiemment. La cour s'attendait à voir quelque chose de nouveau dans ce rôle de Bérénice. On le lui avait annoncé, et l'impératrice y comptait. « Allons, décide-toi » dit Caffariello à la Porporina. « Voici le premier trait d'esprit que la Coria ait eu dans sa vie. Profitons-en. »« Mais je ne sais point le rôle, je ne l'ai pas étudié, » disait Consuelo. « Je ne pourrai pas le savoir demain. » « Tu l'as entendu, donc tu le sais, et tu le chanteras demain !» dit enfin le Porpora d'une voix de tonnerre. « Allons, point de grimace, et que ce débat finisse. Voilà plus d'une heure que nous perdons à babiller. Monsieur le directeur, faites commencer les violons. Et toi, Bérénice, en scène. Point de cahier, à bas ce cahier. Quand on a répété 3 fois, on doit savoir tous les rôles par cœur. Je te dis que tu le sais !» « No tutto, ô Bérénice !» chanta la Coria, redevenue Ismène. « Tout non appris il tuo cuor !» Et à présent, pensa cette fille, qui jugeait de l'orgueil de Consuelo par le sien propre, tout ce qu'elle sait de mes aventures lui paraîtra peu de chose. Consuelo, dont le Porpora connaissait bien la prodigieuse mémoire et la victorieuse facilité, chanta effectivement le rôle. Musique et paroles sans la moindre hésitation. Madame Daisy fut si frappée de son jeu et de son chant qu'elle se trouva beaucoup plus malade et se fit remporter chez elle après la répétition du premier acte. Le lendemain, il fallut que Consuelo eût préparé son costume, arrangé les traits de son rôle et repassé toute sa partie attentivement à 5 heures du soir. Elle eut un succès si complet que l'impératrice dit en sortant « Voilà une admirable jeune fille, il faut absolument que je la marie, j'y songerai. » Dès le jour suivant, on commença à répéter la Zenobia de Métastase, musique de Predieri. La Coria s'obstina encore à céder le premier rôle à Consuelo. Madame Holzbauer fit cette fois le second. Et comme elle était meilleure musicienne que la Coria, cet opéra fut beaucoup mieux étudié que l'autre. Le Métastase était ravi de voir sa muse, négligée et oubliée durant la guerre, reprendre faveur à la cour et faire fureur à Vienne. Il ne pensait presque plus à ses mots. Et, pressé par la bienveillance de Marie-Thérèse et par les devoirs de son emploi, d'écrire de nouveaux drames lyriques, il se préparait, par la lecture des tragiques grecs et des classiques latins, à produire quelqu'un de ces chefs-d'œuvre que les Italiens de Vienne et les Allemands de l'Italie mettaient sans façon au-dessus des tragédies de Corneille, de Racine, de Shakespeare, de Calderon, au-dessus de tout, pour le dire sans détour et sans mauvaise honte. Ce n'est pas au beau milieu de cette histoire, déjà si longue et si chargée de détails, que nous abuserons encore de la patience, peut-être depuis longtemps épuisée, du lecteur, pour lui dire ce que nous pensons du génie de Métastase. Peu lui importe, nous allons donc lui répéter seulement ce que Consuelo en disait tout bas à Joseph. « Mon pauvre Beppo, tu ne saurais croire quelle peine j'ai à jouer ces rôles qu'on dit si sublimes et si pathétiques. Il est vrai que les mots sont bien arrangés et qu'ils arrivent facilement sur la langue quand on les chante. Mais quand on pense au personnage qui les dit, on ne sait où prendre, je ne dis pas de l'émotion, mais du sérieux pour les prononcer. Quelle bizarre convention est donc celle qu'on a faite en arrangeant l'Antiquité à la mode de notre temps ?» pour mettre sur la scène des intrigues, des passions et des moralités qui seraient bien placées peut-être dans des mémoires de la margrave de Barreit, du baron de Trinque ou de la princesse de Culmac, mais qui, de la part de Radamiste, de Bérénice ou d'Arsinoé, sont des contresens absurdes. Lorsque j'étais convalescente au château des Géants, le comte Albert me faisait souvent la lecture pour m'endormir. Mais moi, je ne dormais pas et j'écoutais de toutes mes oreilles. Il me lisait des tragédies grecques de Sophocle, d'Eschyle ou d'Euripide, et il les lisait en espagnol, lentement, mais nettement et sans hésitation, quoique ce fût un texte grec qu'il avait sous les yeux. Il était si versé dans les langues anciennes et nouvelles qu'on eût dit qu'il lisait une traduction admirablement écrite. Il s'attachait à la faire assez fidèle, disait-il, pour que je pusse saisir, dans l'exactitude scrupuleuse de son interprétation, le génie des Grecs dans toute sa simplicité. Quelle grandeur, mon Dieu! Quelles images! Quelle poésie et quelle sobriété! Quels personnages de 10 coudées! Quels caractères purs et forts! Quelles énergiques situations! Quelles douleurs profondes et vraies! Quel tableau déchirant et terrible il faisait passer devant moi! Faible encore, et l'imagination toujours frappée des émotions violentes qui avaient causé ma maladie, j'étais si bouleversée de ce que j'entendais que je m'imaginais, en l'écoutant, être tour à tour Antigone, Clytemnestre, Médée, Électre, et jouer en personne ces drames sanglants et douloureux, non sur un théâtre à la lueur des quinquets, mais dans des solitudes affreuses, au seuil des grottes béantes ou sous les colonnes des antiques parvis, auprès des pâles foyers où l'on pleurait les morts en conspirant contre les vivants. J'entendais ces cœurs lamentables des Troyennes et des captives de Dardanie. Les Euménines dansaient autour de moi. Sur quel rythme bizarre et sur quelles infernales modulations! Je n'y pense pas sans un souvenir de plaisir et de terreur qui me fait encore frissonner. Jamais je n'aurai sur le théâtre, dans la réalisation de mes rêves, les mêmes émotions et la même puissance que je sentais gronder alors dans mon cœur et dans mon cerveau. C'est là que je me suis sentie tragédienne pour la première fois, et que j'ai conçu des types dont aucun artiste ne m'avait fourni le modèle. C'est là que j'ai compris le drame, l'effet tragique, la poésie du théâtre. Et à mesure qu'Albert lisait, j'improvisais intérieurement un chant sur lequel je m'imaginais suivre et dire moi-même tout ce que j'entendais. Je me surprenais quelquefois dans l'attitude et avec la physionomie des personnages qu'il faisait parler. Et il lui arriva souvent de s'arrêter effrayé, croyant voir apparaître Andromaque ou Ariane devant lui. Oh, va, j'en ai plus appris et plus deviné en un mois avec ces lectures-là que je ne le ferai dans toute ma vie, employé à répéter les drames de M. Métastase. Et si les compositeurs n'avaient mis dans la musique le sentiment et la vérité qui manquent à l'action, je crois que je succomberais sous le dégoût que j'éprouve à faire parler la grande duchesse Zénobie avec la landgrave Aiglée, et à entendre le fel de maréchal Radamiste se disputer avec le cornette de Pandours au pire. Oh, tout cela est faux, archi-faux, mon pauvre Beppo. Faux comme nos costumes, faux comme la perruque blonde de Caffariel au Triridate, comme le déshabillé Pompadour de Madame Holzbauer en Pastourelle d'Arménie, comme les mollets de tricot rose du prince Démétrius, comme ces décors que nous voyons là de près, et qui ressemblent à l'Asie comme l'abbé Métastase ressemble au vieil Homère. « Ce que tu me dis là, répondit Hind, m'explique pourquoi, en sentant la nécessité d'écrire des opéras pour le théâtre, si tant est que je puisse arriver jusque-là, je me sens plus d'inspiration et d'espérance quand je pense à composer des oratorios. Là où les puérils artifices de la scène ne viennent pas donner un continuel démenti à la vérité du sentiment, dans ce cadre symphonique où tout est musique, où l'âme parle à l'âme par l'oreille et non par les yeux, il me semble que le compositeur peut développer toute son inspiration et entraîner l'imagination d'un auditoire dans des régions vraiment élevées. » En parlant ainsi, Joseph et Consuelo, en attendant que tout le monde fût rassemblé pour la répétition, marchaient côte à côte le long d'une grande toile de fond qui devait être ce soir-là le fleuve Arax, et qui n'était dans le demi-jour du théâtre qu'une énorme bande d'indigo étendue parmi de grosses taches d'ocre destinées à représenter les montagnes du Caucase. On sait que ces toiles de fond, préparées pour la représentation, sont placées les unes derrière les autres, de manière à être relevées sur un cylindre au changement à vue. Dans l'intervalle qui les sépare les unes des autres, les acteurs circulent durant la représentation. Les comparses s'endorment ou échangent des prises de tabac, assis ou couchés dans la poussière, sous les gouttes d'huile qui tombent languissamment des quinquets mal assurés. Dans la journée, les acteurs se promènent le long de ces couloirs étroits et obscurs, en répétant leur rôle ou en s'entretenant de leurs affaires. Quelquefois, en épiant les petites confidences ou surprenant les profondes machinations d'autres promeneurs causant tout près d'eux sans les voir, derrière un bras de mer ou une place publique. Heureusement, Métastase n'était point sur l'autre rive de l'Arax, tandis que l'inexpérimenté Consuelo épanchait ainsi son indignation d'artiste avec Hind. La répétition commença. C'était la seconde de Zenobi, et elle alla si bien que les musiciens de l'orchestre applaudirent, selon l'usage, avec leurs archets sur le ventre de leur violon. La musique de Predieri était charmante, et le Porpora la dirigeait avec plus d'enthousiasme qu'il n'avait pu le faire pour celle de Haas. Le rôle de Tiridate était un des triomphes de Caffariello, et il n'avait garde de trouver mauvais quand l'équipant en farouche guerrier Parthe, on le fit roucouler en céladon et parler en clitandre. Consuelo, si elle sentait son rôle faux et guindé dans la bouche d'une héroïne de l'Antiquité, trouvait au moins là un caractère de femme agréablement indiqué. Il offrait même une sorte de rapprochement avec la situation d'esprit où elle s'était trouvée entre Albert et Anzoletto. Et, oubliant tout à fait la couleur locale, comme nous disons aujourd'hui, pour ne se représenter que les sentiments humains, elle s'aperçut qu'elle était sublime dans cet air dont le sens avait été si souvent dans son cœur. « Voi leggete in ogni core, voi sapete o giusti dei. Se son puri i voti miei, se innocente è la pietà. » Elle eut donc en cet instant la conscience d'une émotion vraie et d'un triomphe mérité. Elle n'eut pas besoin que le regard de Caffariello, qui n'était pas gêné ce jour-là par la présence de la Tesi et qui admirait de bonne foi, lui confirma ce qu'elle sentait déjà. La certitude d'un effet irrésistible à produire sur tous les publics du monde et dans toutes les conditions possibles avec ce morceau capital. Elle se trouva ainsi toute réconciliée avec sa partie, avec l'opéra, avec ses camarades, avec elle-même, avec le théâtre, en un mot. Et malgré toutes les imprécations qu'elle venait de faire contre son état une heure auparavant, elle ne put se défendre d'un de ces tressaillements intérieurs, si profonds, si soudains et si puissants, qu'il est impossible à quiconque n'est pas artiste en quelque chose de comprendre quels siècles de labeur, de déceptions et de souffrances ils peuvent racheter en un instant. Chapitre 95. En qualité d'élève, encore à demi-serviteur du Porpora, Hind, avide d'entendre de la musique et d'étudier, même sous un point de vue matériel, la contexture des opéras, obtenait la permission de se glisser dans les coulisses lorsque Consuelo chantait. Depuis 2 jours, il remarqua que le Porpora, d'abord assez mal disposé à l'admettre ainsi dans l'intérieur du théâtre, l'y autorisait d'un air de bonne humeur, avant même qu'il osât le lui demander. C'est qu'il s'était passé quelque chose de nouveau dans l'esprit du professeur. Marie-Thérèse, parlant musique avec l'ambassadeur de Venise, était revenue à son idée fixe de matrimonio mani, comme disait Consuelo. Elle lui avait dit qu'elle verrait avec plaisir cette grande cantatrice se fixer à Vienne en épousant le jeune musicien, élève de son maître. Elle avait pris des informations sur Hind auprès de l'ambassadeur même, et ce dernier lui en ayant dit beaucoup de bien, l'ayant assuré qu'il annonçait de grandes facultés musicales, et surtout qu'il était très bon catholique, Sa Majesté l'avait engagé à arranger ce mariage, promettant de faire un sort convenable aux jeunes époux. L'idée avait souri à M. Corner, qui aimait tendrement Joseph, et déjà lui faisait une pension de 72 francs par mois pour l'aider à continuer librement ses études. Il en avait parlé chaudement au Porpora, et celui-ci, craignant que sa Consuelo ne persistât dans l'idée de se retirer du théâtre pour épouser un gentilhomme, après avoir beaucoup hésité, beaucoup résisté, il eût préféré à tout que son élève vécût sans hymen et sans amour, s'était enfin laissé persuader. Pour frapper un grand coup, l'ambassadeur s'était déterminé à lui faire voir des compositions de Haydn, et à lui avouer que la sérénade en trio, dont il s'était montré si satisfait, était de la façon de Beppo. Le Porpora avait confessé qu'il y avait là le germe d'un grand talent, qu'il pourrait lui imprimer une bonne direction et l'aider par ses conseils à écrire pour la voix. Enfin, que le sort d'une cantatrice mariée à un compositeur pouvait être fort avantageux. La grande jeunesse du couple et ses minces ressources lui imposaient la nécessité de s'adonner au travail sans autre espoir d'ambition, et Consuelo se trouverait ainsi enchaîné au théâtre. Le maestro se rendit. Il n'avait pas reçu, plus que Consuelo, de réponse de Reisenburg. Ce silence lui faisait craindre quelque résistance à ses vues, quelque coup de tête du jeune comte. « Si je pouvais, sinon marier, du moins fiancer Consuelo à un autre, » pensa-t-il, « je n'aurais plus rien à craindre de ce côté-là. » Le difficile était d'amener Consuelo à cette résolution. L'y exhorter eût été lui inspirer la pensée de résister. Avec sa finesse napolitaine, il se dit que la force des choses devait amener un changement insensible dans l'esprit de cette jeune fille. Elle avait de l'amitié pour Beppo, et Beppo, quoiqu'il eût vaincu l'amour dans son cœur, montrait tant de zèle, d'admiration et de dévouement pour elle, que le Porpora put bien s'imaginer qu'il en était violemment épris. Il pensa qu'en ne le gênant point dans ses rapports avec elle, il lui laisserait les moyens de faire agréer ses vœux. Qu'en l'éclairant, en temps et lieu sur les desseins de l'impératrice, et sur sa propre adhésion, il lui donnerait le courage de l'éloquence et le feu de la persuasion. Enfin, il cessa tout à coup de le brutaliser et de le rabaisser, et laissa un libre cours à leurs épanchements fraternels, se flattant que les choses iraient plus vite ainsi que s'il s'en mêlait ostensiblement. Le Porpora, en ne doutant pas assez du succès, commettait une grande faute. Il livrait la réputation de Consuelo à la médisance, car il ne fallait que voir Joseph deux fois de suite dans les coulisses auprès d'elle pour que toute la gente dramatique proclamât ses amours avec ce jeune homme. Et la pauvre Consuelo, confiante et imprévoyante comme toutes les âmes droites et chastes, ne songeait nullement à prévoir le danger et à s'en garantir. Aussi, dès le jour de cette répétition de Zenobi, les yeux prirent l'éveil et les langues la volée. Dans chaque coulisse, derrière chaque décor, il y eut, entre les acteurs, entre les choristes, entre les employés de toutes sortes qui circulaient, une remarque maligne ou enjouée, accusatrice ou bienveillante, sur le scandale de cette intrigue naissante ou sur la candeur de ces heureuses accordailles. Consuelo, tout à son rôle, tout à son émotion d'artiste, ne voyait, n'entendait et ne pressentait rien. Joseph, tout rêveur, tout absorbé par l'opéra qu'on chantait et par celui qu'il méditait dans son âme musicale, entendait bien quelques mots à la dérobée et ne les comprenait pas, tant il était loin de se flatter d'une vaine espérance. Quand il surprenait en passant quelques paroles équivoques, quelque observation piquante, il levait la tête, regardait autour de lui, cherchait l'objet de ses satires, et ne le trouvant pas, profondément indifférent aux propos de ce genre, il retombait dans ses contemplations. entre chaque acte de l'opéra, on donnait souvent un intermède bouffe, et ce jour-là, on répéta l'impresario delle Canarie, assemblage de petites scènes très gaies et très comiques de métastases. La Corilla, en y remplissant le rôle d'une prima donna exigeante, impérieuse et fantasque, était d'une vérité parfaite, et le succès qu'elle avait ordinairement dans cette bleuette la consolait un peu du sacrifice de son grand rôle de Zénobie. Pendant qu'on répétait la dernière partie de l'intermède, en attendant qu'on répétât le troisième acte, Consuelo, un peu oppressé par l'émotion de son rôle, alla derrière la toile de fond, entre l'horrible vallée hérissée de montagnes et de précipices, qui formait le premier décor, et ce bon fleuve Arax, bordé d'aménissimes montagnes, qui devait apparaître à la troisième scène pour reposer agréablement les yeux du spectateur sensible. Elle marchait un peu vite, allant et revenant sur ses pas, lorsque Joseph lui apporta son éventail, qu'elle avait laissé sur la niche du souffleur, et dont elle se servit avec beaucoup de plaisir. L'instinct du cœur et la volontaire préoccupation du porpora poussaient machinalement Joseph à rejoindre son ami. L'habitude de la confiance et le besoin d'épanchement portaient Consuelo à l'accueillir toujours joyeusement. De ce double mouvement d'une sympathie dont les anges n'eussent pas rougi dans le ciel, la destinée avait résolu de faire le signal et la cause d'étranges infortunes. Nous savons très bien que nos lectrices de romans, toujours pressées d'arriver à l'événement, ne nous demandent que plaies et bosses. Nous les supplions d'avoir un peu de patience. « Eh bien, mon ami, » dit Joseph en souriant à Consuelo et en lui tendant la main, « il me semble que tu n'es plus si mécontente du drame, de notre illustre abbé, et que tu as trouvé dans ton air de la prière une fenêtre ouverte par laquelle le démon du génie qui te possède va prendre une bonne fois sa volée. Tu trouves donc que je l'ai bien chanté ? Est-ce que tu ne vois pas que j'ai les yeux rouges ? Ah oui, tu as pleuré. C'est bon, tant mieux. Je suis bien contente de t'avoir fait pleurer. Comme si c'était la première fois. Mais tu deviens artiste, comme le porpora veut que tu le sois, ma bonne Consuelo. La fièvre du succès s'est allumée en toi. Quand tu chantais dans les sentiers du Bowerwald, tu me voyais bien pleurer, et tu pleurais toi-même, attendrie par la beauté de ton chant. Maintenant, c'est autre chose. Tu ris de bonheur, et tu tressailles d'orgueil en voyant les larmes que tu fais couler. Allons, courage, ma Consuelo. Te voilà prima donna dans toute la force du terme. Ne me dis pas cela, ami, je ne serai jamais comme celle de là-bas. » Et elle désignait du geste la Corilla, qui chantait de l'autre côté de la toile de fond sur la scène. « Ne le prends pas en mauvaise part, » repartit Joseph. « Je veux dire que le dieu de l'inspiration t'a vaincu. En vain, ta raison froide, ton austère philosophie et le souvenir de Risenburg ont lutté contre l'esprit de Python. Le voilà qui te remplit et te déborde. Avoue que tu étouffes de plaisir. Je sens ton bras trembler contre le mien. Ta figure est animée, et jamais je ne t'ai vu le regard que tu as dans ce moment-ci. Non, tu n'étais pas plus agité, pas plus inspiré quand le comte Albert te lisait les tragiques grecs. Ah, quel mal tu me fais ! S'écria Consuelo en pâlissant tout à coup et en retirant son bras de celui de Joseph. Pourquoi prononces-tu ce nom-là ici ? C'est un nom sacré qui ne devrait pas retentir dans ce temple de la folie. C'est un nom terrible qui, comme un coup de tonnerre, fait rentrer dans la nuit toutes les illusions et tous les fantômes des songes dorés. Eh bien, Consuelo, veux-tu que je te le dise ? Reprit Hind après un moment de silence. Jamais tu ne pourras te décider à épouser cet homme-là.
Tais-toi, tais-toi, je l'ai promis.
Eh bien, si tu tiens ta promesse, jamais tu ne seras heureuse avec lui. Quitter le théâtre, toi, renoncer à être artiste, il est trop tard d'une heure. Tu viens de savourer une joie dont le souvenir ferait le tourment de toute ta vie.
Tu me fais peur, Beppo. Pourquoi me dis-tu de pareilles choses aujourd'hui ?
Je ne sais, je te l'ai dit comme malgré moi. Ta fièvre a passé dans mon cerveau, et il me semble que je vais, en rentrant chez nous, écrire quelque chose de sublime. Ce sera quelque platitude. N'importe, je me sens plein de génie pour le quart d'heure.
Comme tu es gai, comme tu es tranquille, toi. Moi, au milieu de cette fièvre d'orgueil et de joie dont tu parles, j'éprouve une atroce douleur, et j'ai à la fois envie de rire et de pleurer.
Tu souffres, j'en suis certain. Tu dois souffrir. Au moment où tu sens ta puissance éclater, une pensée lugubre te saisit et te glace.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que tu es artiste et que tu t'es imposé comme un devoir l'obligation farouche, abominable à Dieu et à toi-même, de renoncer à l'art.
Il me semblait hier que non, et aujourd'hui il me semble que oui. C'est que j'ai mal aux nerfs, et que ces agitations sont terribles et funestes, je le vois. J'avais toujours nié leur entraînement et leur puissance. J'avais toujours abordé la scène avec calme, avec une attention consciencieuse et modeste. Aujourd'hui, je ne me possède plus, et s'il me fallait entrer en représentation en cet instant, il me semble que je ferais des folies sublimes ou des extravagances misérables. Les rênes de ma volonté m'échappent. J'espère que demain je ne serai pas ainsi, car cette émotion tient à la fois du délire et de l'agonie. Pauvre ami, je crains qu'il n'en soit toujours ainsi désormais.
Ou plutôt, je l'espère,
car tu ne seras vraiment puissante que dans le feu de cette émotion. J'ai ouï dire à tous les musiciens, à tous les acteurs que j'ai abordés, que, sans ce délire ou sans ce trouble, ils ne pouvaient rien. Et qu'au lieu de se calmer avec l'âge et l'habitude, ils devenaient toujours plus impressionnables à chaque étreinte de leurs démons. « Ceci est un grand mystère, » dit Consuelo en soupirant. « Il ne me semble pas que la vanité, la jalousie des autres, le lâche besoin du triomphe, aient pu s'emparer de moi si soudainement et bouleverser mon être du jour au lendemain. Non. » Je t'assure qu'en chantant cette prière de Zenobie et ce duo avec Tiridate, où la passion et la vigueur de Caffariello m'emportaient comme un tourbillon d'orage, je ne songeais ni au public, ni à mes rivales, ni à moi-même. J'étais Zenobie. Je pensais aux dieux immortels de l'Olympe avec une ardeur toute chrétienne, et je brûlais d'amour pour ce bon Caffariello, qu'après la ritournelle, je ne puis pas regarder sans rire. Tout cela est étrange, et je commence à croire que, l'art dramatique étant un mensonge perpétuel, Dieu nous punit en nous frappant de la folie d'y croire nous-mêmes, et de prendre au sérieux ce que nous faisons pour produire l'illusion chez les autres. Non, il n'est pas permis à l'homme d'abuser de toutes les passions et de toutes les émotions de la vie réelle pour s'en faire un jeu. Il veut que nous gardions notre âme saine et puissante pour des affections vraies, pour des actions utiles. Et quand nous faussons ses vues, il nous châtie et nous rend insensés.
Dieu, Dieu, la volonté de Dieu, voilà où gît le mystère, Consuelo.
Qui peut pénétrer les desseins de Dieu envers nous? Nous donnerait-il, dès le berceau, ces instincts, ces besoins d'un certain art que nous ne pouvons jamais étouffer, s'il proscrivait l'usage que nous sommes appelés à en faire? Pourquoi, dès mon enfance, n'aimais-je pas les jeux de mes petits camarades? Pourquoi, dès que j'ai été livrée à moi-même, ai-je travaillé à la musique avec un acharnement dont rien ne pouvait me distraire et une assiduité qui eût tué tout autre enfant de mon âge? Le repos me fatiguait, le travail me donnait la vie. Il en était ainsi de toi, Consuelo. Tu me l'as dit 100 fois. Et quand l'un de nous racontait sa vie à l'autre, celui-ci croyait entendre la sienne propre. Bah, la main de Dieu est dans tout, et toute puissance, toute inclination est son ouvrage, quand nous-mêmes n'en comprenons pas le but. Tu es né artiste, donc il faut que tu le sois, et quiconque t'empêchera de l'être te donnera la mort ou une vie pire que la tombe. Ah, Beppo, s'écria Consuelo consterné et presque égaré.
Si tu étais véritablement mon ami, je sais bien ce que tu ferais.
Eh, quoi donc, cher Consuelo? Ma vie ne t'appartient-elle pas?
Tu me tuerais, demain, au moment où l'on baissera la toile, après que j'aurai été vraiment artiste, vraiment inspiré, pour la première et la dernière fois de ma vie.
Ah, dit Joseph avec une gaieté triste,
j'aimerais mieux tuer ton comte Albert ou moi-même.
En ce moment, Consuelo leva les yeux vers la coulisse qui s'ouvrit vis-à-vis d'elle et la mesura des yeux avec une préoccupation mélancolique. L'intérieur d'un grand théâtre, vu au jour, est quelque chose de si différent de ce qu'il nous apparaît de la salle, aux lumières, qu'il est impossible de s'en faire une idée quand on ne l'a pas contemplé ainsi. Rien de plus triste, de plus sombre et de plus effrayant que cette salle plongée dans l'obscurité, dans la solitude, dans le silence. Si quelques figures humaines venaient à se montrer distinctement dans ces loges, fermées comme des tombeaux, elle semblerait un spectre et ferait reculer d'effroi le plus intrépide comédien. La lumière rare et terne qui tombe de plusieurs lucarnes situées dans les combles sur le fond de la scène rampe en biais sur des échafaudages, sur des haillons grisâtres, sur des planches poudreuses. Sur la scène, l'œil, privé du prestige de la perspective, s'étonne de cette étroite enceinte où tant de personnes et de passions doivent agir, en simulant des mouvements majestueux, des masses imposantes, des élans indomptables, qui sembleront tels aux spectateurs, et qui sont étudiés, mesurés à une ligne près, pour ne point s'embarrasser et se confondre, ou se briser contre les décors. Mais si la scène se montre petite et mesquine, en revanche, la hauteur du vaisseau destiné à loger tant de décorations et à faire mouvoir tant de machines paraît immense, dégagée de toutes ces toiles festonnées en nuages, en corniches d'architecture ou en rameaux verdoyants, qui la coupent dans une certaine proportion pour l'œil du spectateur. Dans sa disproportion réelle, cette élévation a quelque chose d'austère. Et si en regardant la scène, on se croit dans un cachot, en regardant les combles, on se croirait dans une église gothique, mais dans une église ruinée ou inachevée. Car tout ce qui est là est blafard, informe, fantasque, incohérent. Des échelles suspendues sans symétrie pour les besoins du machiniste, coupées comme au hasard et lancées sans motif apparent vers d'autres échelles qu'on ne distingue point dans la confusion de ces détails incolores. Des amas de planches bizarrement tailladées, des corps vus à l'envers et dont le dessin n'offre aucun sens à l'esprit. Des cordes entremêlées comme des hiéroglyphes, des débris sans nom, des poulies et des rouages qui semblent préparés pour des supplices inconnus. Tout cela ressemble à ces rêves que nous faisons à l'approche du réveil et où nous voyons des choses incompréhensibles en faisant de vains efforts pour savoir où nous sommes. Tout est vague, tout flotte, tout semble prêt à se disloquer. On voit un homme qui travaille tranquillement sur ses solives et qui semble porté par des toiles d'araignée. Il peut vous paraître un marin grimpant au cordage d'un vaisseau, aussi bien qu'un rat gigantesque sillant et rongeant les charpentes vermoulues. On entend des paroles qui viennent on ne sait d'où. Elles se prononcent à 80 pieds au-dessus de vous, et la sonorité bizarre des échos accroupis dans tous les coins du dôme fantastique vous les apporte à l'oreille, distinctes ou confuses, selon que vous faites un pas en avant ou de côté, qui change l'effet acoustique. Un bruit épouvantable ébranle les échafauds et se répète en sifflement prolongé. Est-ce donc la voûte qui s'écroule? Est-ce un de ces frêles balcons qui craque et tombe, entraînant de pauvres ouvriers sous ses ruines? Non, c'est un pompier qui éternue. Ou c'est un chat qui s'élance à la poursuite de son gibier à travers les précipices de ce labyrinthe suspendu. Avant que vous soyez habitué à tous ces objets et à tous ces bruits, vous avez peur. Vous ne savez de quoi il s'agit, et contre quelles apparitions inouïes il faut vous armer de sang-froid. Vous ne comprenez rien, et ce que l'on ne distingue pas par la vue ou par la pensée,
Ce qui est incertain et inconnu alarme toujours la logique de la sensation. Tout ce qu'on peut se figurer de plus raisonnable quand on pénètre pour la première fois dans un pareil chaos, c'est qu'on va assister à quelque sabbat insensé dans le laboratoire d'une mystérieuse alchimie. Note de l'auteur. Et cependant, comme tout a sa beauté pour l'œil qui sait voir, ces limbes théâtrales ont une beauté bien plus émouvante pour l'imagination que tous les prétendus prestiges de la scène éclairée et ordonnée à l'heure du spectacle. Je me suis demandé souvent en quoi consistait cette beauté et comment il me serait possible de la décrire si je voulais en faire passer le secret dans l'âme d'un autre. Quoi ? Sans couleur, sans forme, sans ordre et sans clarté, les objets extérieurs peuvent-ils, me dira-t-on, revêtir un aspect qui parle aux yeux et à l'esprit? Un peintre seul pourra me répondre. Oui, je le comprends. Il se rappellera le philosophe en méditation de Rembrandt. Cette grande chambre perdue dans l'ombre, ces escaliers sans fin qui tournent on ne sait comment. Ces lueurs vagues qui s'allument et s'éteignent, on ne sait pourquoi, sur les divers plans du tableau. Toute cette scène, indécise et nette en même temps, cette couleur puissante, répandue sur un sujet qui, en somme, n'est peint qu'avec du brun clair et du brun sombre, cette magie du clair-obscur, ce jeu de la lumière ménagée sur les objets les plus insignifiants, sur une chaise, sur une cruche, sur un vase de cuivre, et voilà que ces objets, qui ne méritent pas d'être regardés, et encore moins d'être peints, deviennent si intéressants, si beaux à leur manière, que vous ne pouvez pas en détacher vos yeux. Ils ont reçu la vie, ils existent et sont dignes d'exister, parce que l'artiste les a touchés de sa baguette, parce qu'il y a fixé une parcelle du soleil, parce que entre eux et lui, il a su étendre un voile transparent, mystérieux. L'air que nous voyons, que nous respirons, et dans lequel nous croyons entrer en nous enfonçant par l'imagination dans la profondeur de sa toile. Eh bien, si nous retrouvons dans la réalité un de ces tableaux, fût-il composé d'objets plus méprisables encore, d'ais brisés, de haillons flétris, de murailles enfumées, si une pâle lumière y jette son prestige avec précaution, si le clair-obscur y déploie cet art essentiel qui est dans les faits, dans la rencontre, dans l'harmonie de toutes les choses existantes, sans que l'homme ait besoin de l'y mettre, l'homme sait l'y trouver, et il le goûte, il l'admire, il en jouit comme d'une conquête qu'il vient de faire. Il est à peu près impossible d'expliquer avec des paroles ces mystères que le coup de pinceau d'un grand maître traduit intelligiblement à tous les yeux. En voyant les intérieurs de Rembrandt, de Teniers, de Gérardot, l'œil le plus vulgaire se rappellera la réalité qui pourtant ne l'avait jamais frappé poétiquement. Pour voir poétiquement cette réalité et en faire par la pensée un tableau de Rembrandt, il ne faut qu'être doué du sens pittoresque commun à beaucoup d'organisations. Mais pour décrire et faire passer ce tableau par le discours dans l'esprit d'autrui, il faudrait une puissance si ingénieuse qu'en l'essayant, je déclare que je cède à une fantaisie sans aucun espoir de réussite. Le génie doué de cette puissance, et qu'il exprime en vers, chose bien plus prodigieuse à tenter, n'a pas toujours réussi. Et cependant, je doute que dans notre siècle, aucun artiste littéraire puisse approcher des résultats qu'il a obtenus en ce genre. Relisez une pièce de vers qui s'appelle « Les puits de l'Inde ». Ce sera un chef-d'œuvre ou une orgie d'imagination, selon que vous aurez, ou non, des facultés sympathiques à celles du poète. Quant à moi, j'avoue que j'en ai été horriblement choquée à la lecture. Je ne pouvais approuver ce désordre et cette débauche de description. Puis, quand j'eus fermé le livre, je ne pouvais plus voir autre chose dans mon cerveau que ces puits, ces souterrains, ces escaliers, ces gouffres par où le poète m'avait fait passer. Je les voyais en rêve, je les voyais tout éveillés. Je n'en pouvais plus sortir, j'y étais enterré vivant. J'étais subjugué, et je ne voulus pas relire ce morceau, de crainte de trouver qu'un si grand peintre, comme un si grand poète, n'était pas un écrivain sans défaut. Cependant, je retins par cœur, pendant longtemps, les 8 derniers vers, qui, dans tous les temps et pour tous les goûts, seront un trait profond, sublime, et sans reproche, qu'on l'entende avec le cœur, avec l'oreille ou l'esprit. Fin de la note. Consuelo laissait donc errer ses yeux distraits sur cet édifice singulier, et la poésie de ce désordre se révélait à elle pour la première fois. À chaque extrémité du couloir formé par les deux toiles de fond, s'ouvrait une coulisse noire et profonde où quelques figures passaient de temps en temps comme des ombres. Tout à coup, elle vit une de ces figures s'arrêter comme pour l'attendre, et elle crut voir un geste qui l'appelait. « Est-ce le Porpora ? » demanda-t-elle à Joseph. « Non, dit-il, mais c'est sans doute quelqu'un qui vient d'avertir qu'on va répéter le troisième acte. » Consuelo doubla le pas en se dirigeant vers ce personnage dont elle ne pouvait distinguer les traits parce qu'il avait reculé jusqu'à la muraille. Mais lorsqu'elle fut à 3 pas de lui et au moment de l'interroger, il glissa rapidement derrière les coulisses suivantes et gagna le fond de la scène en passant derrière toutes les toiles. « Voilà quelqu'un qui avait l'air de nous épier, » dit Joseph. « Et qui a l'air de se sauver ?» ajouta Consuelo, frappé de l'empressement avec lequel il s'était dérobé à ses regards. « Je ne sais pourquoi il m'a fait peur. » Elle rentra sur la scène et répéta son dernier acte, vers la fin duquel elle ressentit encore les mouvements d'enthousiasme qui l'avaient transportée. Quand elle voulut remettre son mantelet pour se retirer, elle le chercha, éblouie par une clarté subite. On venait d'ouvrir une lucarne au-dessus de sa tête, et le rayon du soleil couchant tombait obliquement devant elle. Le contraste de cette brusque lumière avec l'obscurité des objets environnants égara un instant sa vue. Et elle fit 2 ou 3 pas au hasard, lorsque tout à coup, elle se trouva auprès du même personnage en manteau noir qui l'avait inquiété dans la coulisse. Elle le voyait confusément, et cependant il lui sembla le reconnaître. Elle fit un cri et s'élança vers lui, mais il avait déjà disparu, et ce fut en vain qu'elle le chercha des yeux. « Qu'as-tu ? » lui dit Joseph en lui présentant son mantelet. « T'es-tu heurté contre quelque décor ? T'es-tu blessé ?»«
Non, »
dit-elle, « mais j'ai vu le comte Albert. »«
Le comte Albert ? Ici ? En es-tu sûr ? Est-ce possible ?»«
C'est possible, c'est certain, » dit Consuelo en l'entraînant. Et elle se mit à parcourir les coulisses, en courant et en pénétrant dans tous les coins. Joseph l'aidait à cette recherche, persuadé cependant qu'elle s'était trompée, tandis que le Porpora l'appelait avec impatience pour la ramener au logis. Consuelo ne trouva personne qui lui rappelât le moindre trait d'Albert. Et lorsque, forcée de sortir avec son maître, elle vit passer toutes les personnes qui avaient été sur la scène en même temps qu'elle, elle remarqua plusieurs manteaux assez semblables à celui qui l'avait frappé.
« C'est égal, » dit-elle tout bas à Joseph, qui lui en faisait l'observation. « Je l'ai vu, il était là. »«
C'est une hallucination que tu as eue, » reprit Joseph. « Si c'eût été vraiment le comte Albert, il t'aurait parlé, et tu dis que 2 fois il a fui à ton approche. »«
Je ne dis pas que ce soit lui réellement, mais je l'ai vu, et comme tu le dis, Joseph, je crois maintenant que c'est une vision. Il faut qu'il lui soit arrivé quelque malheur. » Oh, j'ai envie de partir tout de suite, de m'enfuir en Bohême. Je suis sûre qu'il est en danger, qu'il m'appelle, qu'il m'attend.
Je vois qu'il t'a, entre autres mauvais offices, communiqué sa folie, ma pauvre Consuelo. L'exaltation que tu as eue en chantant t'a disposée à ses rêveries. Reviens à toi, je t'en conjure, et sois certaine que si le comte Albert est à Vienne, tu le verras bien vivant accourir chez toi avant la fin de la journée.
Cette espérance ranima Consuelo. Elle doubla le pas avec Beppo, laissant derrière elle le vieux Porpora, qui ne trouva pas mauvais cette fois qu'elle l'oublia dans la chaleur de son entretien avec ce jeune homme. Mais Consuelo ne pensait pas plus à Joseph qu'au maestro. Elle courut, elle arriva tout essoufflée, monta à son appartement et n'y trouva personne.
Joseph s'informa auprès des domestiques si quelqu'un l'avait demandé pendant son absence. Personne n'était venu, personne ne vint. Consuelo attendit en vain toute la journée. Le soir, et assez avant dans la nuit, elle regarda par la fenêtre tous les passants attardés qui traversaient la rue. Il lui semblait toujours voir quelqu'un se diriger vers sa porte et s'arrêter. Mais ce quelqu'un passait outre, l'un en chantant, l'autre en faisant entendre une toux de vieillard, et il se perdait dans les ténèbres. Consuelo, convaincue qu'elle avait fait un rêve, alla se coucher. Et le lendemain matin, cette impression se trouvant dissipée, elle avoua à Joseph qu'elle n'avait réellement distingué aucun des traits du personnage en question. L'ensemble de sa taille, la coupe et la pose de son manteau, un teint pâle, quelque chose de noir au bas du visage, qui pouvait être une barbe ou l'ombre du chapeau fortement dessinée par la lumière bizarre du théâtre. Ces vagues ressemblances, rapidement saisies par son imagination, lui avaient suffi pour se persuader qu'elle voyait Albert. « Si un homme, tel que tu me l'as si souvent dépeint, s'était trouvé sur le théâtre, » lui dit Joseph. Il y avait là assez de monde circulant de tous côtés pour que sa mise négligée, sa longue barbe et ses cheveux noirs eussent attiré les remarques. Or, j'ai interrogé de tous côtés et jusqu'au portier du théâtre, qui ne laisse pénétrer personne dans l'intérieur sans le reconnaître ou voir son autorisation. Et qui que ce soit n'avait vu un homme étranger au théâtre ce jour-là. Allons, il est certain que je l'ai rêvé. J'étais émue, hors de moi. J'ai pensé à Albert, son image a passé dans mon esprit. Quelqu'un s'est trouvé là devant mes yeux et j'en ai fait Albert. Ma tête est donc devenue bien faible. Il est certain que j'ai crié du fond du cœur et qu'il s'est passé en moi quelque chose de bien extraordinaire et de bien absurde. « N'y pense plus, » dit Joseph. « Ne te fatigue pas avec des chimères. Repasse ton rôle. » Et songe à ce soir.